Alors, on va aller dans le chapitre 9 d'Ésaïe, les versets 5 et 6. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on avait commencé ce sermon-là la semaine dernière, je vous avais dit que, vu qu'en le préparant, je m'étais rendu compte que ça prendrait plus que juste un sermon pour le faire. Fait qu'on va faire la deuxième partie aujourd'hui, mais on va quand même reviser ce qu'on a vu la semaine dernière de manière à ce qu'on voit l'ensemble de ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, on avait mentionné la semaine dernière, on va faire une brève révision pour se rendre jusqu'où on était rendu et après on terminera. Alors, j'avais mentionné que le livre d'Ésaïe, c'est le livre qui est le plus cité dans le Nouveau Testament après le livre des Psaumes. Il y a une raison pour ça, c'est parce que dans le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de prophéties concernant la personne du Christ, sur beaucoup d'aspects de sa personne. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il est tellement cité dans le Nouveau Testament. Alors, le thème, on avait dit que le thème général du livre, si on prend Ésaïe, là, puis on essaie de le résumer vraiment en deux petites idées, les deux principales idées seraient le jugement du péché, parce que quand on regarde l'ensemble des choses qui sont dites dans le livre, le Seigneur est en train de dire, je vais juger des nations, il nomme les nations, et il dit qu'est-ce qu'il va leur envoyer. Et il parle aussi du jugement qu'il va faire face à Israël lui-même, Israël. Et aussi, donc, ça parle du jugement du péché, à la fois des nations et à la fois du peuple d'Israël. Et ça parle du salut par grâce, par la venue du Messie. Donc, Ésaïe 9, 5 et 6 parle justement, le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël, malgré vos infidélités, malgré vos manquements, voici ce que je vais faire. Voyez, pour rappeler un peu le contexte historique de l'Ésaïe, au nord, tu avais la Syrie, et la Syrie s'apprêtait à venir les attaquer. Et au sud, tu avais l'Égypte. Alors, eux étaient comme pognés entre les deux, et leur façon de voir la chose, plutôt que de se tourner vers le Seigneur, pourtant le Seigneur les avait donné une multitude d'exemples dans l'Ancien Testament, où il avait intervenu en la faveur du peuple, même si des fois tu peux avoir une armée d'un million, puis toi tu es juste de 10, si le Seigneur veut, avec 10, il va te faire gagner. Mais là, on voit, on se reconnaît aussi dans le peuple d'Israël, plutôt que de se confier au Seigneur pour les protéger de l'attaque, ils savaient que c'était sur le bord d'arriver, là. Plutôt que de se fier au Seigneur, ils se sont mis entre eux, là, ils se sont mis à dire, « Ben moi, je pense que la bonne idée, là, ça serait de négocier avec la Syrie pour pas que ce soit trop dur avec nous autres. » Puis tu avais une autre gang qui disait, « Ben moi, je pense que ça serait une meilleure idée de négocier avec l'Égypte au sud, pour qu'ils nous protègent, advenant qu'on soit attaqué. » Alors, ils voyaient, leurs solutions étaient des solutions humaines, terre à terre. Se fier sur des alliances, se fier sur des négociations avec des nations, plutôt que de se fier sur le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur leur reproche. Vous n'êtes pas dedans. Vous ne comprenez pas à qui vous adressez pour vous sortir de votre problème. Alors ça, on se souvient que le passage qu'on est en train de lire, cette prophétie-là que le Seigneur fait sur le Messie, c'est 700 ans avant que la chose se produise. Alors on voit vraiment le rôle du Saint-Esprit dans ce passage-là, où Dieu le Saint-Esprit, vient nous annoncer que malgré vos infidélités, puis votre façon de faire, de vouloir des alliances avec les hommes plutôt que de vous fier sur moi, là, il leur annonce qu'il va leur envoyer éventuellement. Ça s'est fait 700 ans plus tard. mais il leur dit quand même, autrement dit. La première idée qu'on avait regardée, c'était que le Messie Jésus-Christ, dans ce passage-là, on le voit dans son humiliation. Autrement dit, un Dieu, Dieu le Fils, qui vient s'incarner. Dieu le Fils, là, il avait les mêmes attributs que Dieu le Père et les mêmes attributs que Dieu le Saint-Esprit. Et si on se mettait à rentrer dans les détails de ça, là, c'est ça qui rend la chose merveilleuse quand on s'arrête à penser. Tous ses attributs sont infinis. Il était Dieu le Fils. Et il est venu s'incarner dans une chair d'homme. Les hommes l'ont perçu comme étant un homme durant toute la présence où il était sur terre, quand il était bébé, quand il a grandi, jusqu'à la fin, même quand il a été crucifié, ses apôtres, ils ont eu de la misère. Ça a été comme des petits éclairs de génie, une fois de temps en temps, qui ont fini par découvrir qui était le Christ. Mais ça a été après la résurrection. Ça a pris un temps énorme aux hommes avant de réaliser que le Seigneur était venu sur cette terre. Alors, l'incarnation, quand ça nous dit dans le verset 5, c'est-à-dire « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Bien sûr, on parle du Messie à venir. Et les noms qui lui sont attribués, il y a 5 noms dans le texte. « Admirable », en anglais, c'est « wonderful ». Quand tu lis dans la version anglaise, ils vont parler « What's your name? »« My name is wonderful. » Son nom est merveilleux. Alors vraiment, merveilleux, Dieu puissant, Père éternel. Comment peut-on penser que c'est un homme, que le Fils qui t'est donné, c'est un homme? Quand tu dis que cette personne-là s'appelle Père éternel, quelque part, là, il y a des Juifs que, avec ce passage-là, quand ils lisent, ils ne veulent pas voir le Messie dedans. Et là, ils théorisent, mais des affaires complètement disconnectées. Comment tu peux associer le nom d'un homme avec des noms pareils? Il faut que ça soit le Christ. Alors, on avait vu que Jésus, le Christ, la deuxième personne de la Trinité, s'était incarné dans une chair d'homme, un enfant nous est né, et que le Messie est un cadeau divin, un don, un fils nous est donné. Alors, ça venait confirmer les promesses que Dieu avait faites depuis la Genèse 3:15, où Dieu avait déjà dit, suite à la chute, qu'il enverrait son Messie pour s'occuper du problème que les hommes avaient créé par un énorme péché. Et il lui dit que cet enfant-là, que la personne qui leur est donnée, la domination va reposer sur son épaule. Alors, la domination, ça veut dire que c'est un roi qui va être capable de dominer tout ce qui se passe sur la terre à partir de sa venue, mais même avant, ce qu'on va voir un peu plus tard. Alors, la deuxième idée qu'on avait regardée, c'est que le Messie Jésus-Christ, dans son exaltation, parce que les cinq noms qui lui sont donnés à Christ ici, c'est des noms vraiment merveilleux. Juste pour vous rappeler, on avait fait une étude, pas une étude, mais on avait été chercher un article dans le dictionnaire biblique pour démontrer jusqu'à quel point le nom, dans l'Ancien Testament, quand Dieu donne un nom à quelqu'un, on avait vu justement, on est dans Genèse, là, dans les autres semaines, quand il change le nom d'Abraham pour Abraham, c'est très significatif. Quand il change le nom de Saraï pour Sarah, c'est très significatif. Mais souvent, dans les Écritures, on ne tient pas assez compte du fait que le Seigneur, les noms qu'il donne. J'ai à maison un livre qui a été fait sur les noms de Dieu, les noms qui sont attribués à Dieu le Père, les noms qui sont attribués à Dieu le Fils, les noms qui sont attribués à Dieu le Saint. Il y en a des centaines. On les connaît si peu. Pourtant, il y a beaucoup de richesses théologiques à l'arrière de chacun des noms. Parce que chaque nom révèle un aspect ou une facette de la personne de Jésus-Christ, pour le cas de Jésus-Christ, ou une facette du nom du Père ou du Saint-Esprit, la même chose. Tous ces noms-là, quand on se met à étudier ça, c'est merveilleux. Alors, je voulais vous revenir avec l'article qui s'appelle « Nom » dans le Nouveau Dictionnaire biblique, juste pour se rendre compte de l'importance du nom dans l'Ancien Testament. À l'époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom de la personne, entre le nom et la personne, ou la chose nommée. Le nom participe en quelque sorte à son essence, qu'il a pour but de révéler. L'essence, c'est qui est la personne. Donc, le nom révèle l'essence de la personne, qui il est dans la réalité. C'est ce qu'il est en train de faire. Il nous nomme 5 facettes de Jésus-Christ pour nous montrer son essence, l'essence du Christ. Après ça, il dit, il exprime la personnalité à tel point que savoir le nom de quelqu'un, c'est le connaître intimement et même à avoir une certaine prise sur lui. Dans la Bible, le nom doit exprimer la nature de celui qui le porte. Donc, on avait commencé à regarder les noms, les 5 noms, la semaine dernière. On avait vu que le premier qui était mentionné, c'est « admirable », en anglais « wonderful ». Donc, le Messie est admirable dans sa nature, il est parfaitement Dieu et il est parfaitement homme, uni dans une seule personne. Une personne, 2 natures. La nature divine parfaite et complète, la nature humaine parfaite et complète, l'union des deux. Quand vous regarderez n'importe quel livre de théologie qui parle de l'incarnation, c'est un mystère, c'est quelque chose de mystérieux. Comment la nature divine a pu s'unir avec la nature humaine dans une seule personne? Quand on se met à regarder tous les problèmes et toutes les facettes de ça, on est littéralement émerveilleux. Donc, il est admirable dans sa nature, il est admirable dans l'union des deux natures, et il est admirable dans ses offices. On a parlé la semaine dernière des offices de Christ, et qui sont, notre roi, prophète, sacrificateur et roi. On était rendu là, la semaine dernière. Donc, c'est une petite révision très rapide. Et là, on regarde aussi, on est encore dans admirable, il est admirable dans ses relations avec son peuple. On a parlé ce matin, on faisait des remerciements au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous cette année, pour l'Église, dans nos vies personnelles, dans l'ensemble de sa direction de l'Église dans son ensemble sur la terre. Donc, Dieu prend soin, et c'est des tendres soins. Quand votre mère vous aime, là, puis vous êtes malade, puis qu'elle vient vous entourer de ses soins, c'est tendre, hein, c'est... C'est agréable quand on est malade de se sentir aimé de cette manière-là. Oh, une petite couverte, puis un petit... On voit la tendresse, c'est de vouloir le bien de l'autre et de prendre tous les moyens possibles, imaginables pour, si la personne souffre, d'amoindrir sa souffrance ou pour la rendre plus confortable, etc. Le Père, dans les Écritures, qu'est-ce que les Écritures nous disent sur les tendres soins de Dieu? 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. On en a tous des soucis. Hein. Puis il nous dit, garde-la pas pour toi, prends ton voyage et décharge-les sur lui. Car lui-même prend soin de vous. Des fois, c'est de s'arrêter à penser à ça, que Dieu le Père prend lui-même. Dieu... Notre problème, c'est quand on lit des choses, on ne prend pas conscience de la grandeur infinie du Seigneur. Et quand on dit « lui-même », c'est pas « il n'envoie pas un ange, il n'envoie pas un médecin, il n'envoie pas ta mère, ton père ». Lui-même prend soin de vous. Quelque part, ça devrait nous inspirer vraiment des louanges et des grâces innombrables dans Jean 1, 16, ça dit « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce », autrement dit, des choses, une grâce est une chose que tu ne mérites pas. Même, moi j'aime bien la définition, c'est une faveur déméritée. Entre une faveur, parce que des fois on définit la grâce comme une faveur imméritée, donc une faveur qui n'est pas méritée, mais c'est plus que ça, c'est une faveur déméritée parce que tu mériterais le contraire. Et il te donne quelque chose, il te donne grâce sur grâce. Il n'arrête pas de te donner des grâces. Il te donne ce que tu ne mérites pas. Tu mériterais l'inverse, mais il te donne une grâce. Il t'en donne un autre. Et il t'en donne un autre et ça n'arrête jamais. Et aussi, on parle, quand on parle d'admirable, il est admirable dans son amour insondable et ineffable. C'est des mots, on s'arrête pas à penser au sens du mot. Insondable, ça veut dire que tu ne peux pas aller jusqu'au fond. Tu sondes, disons une sonde, t'envoies une sonde, disons, tu veux savoir la profondeur d'un puits, tu laisses descendre ta corde, tu laisses descendre ta corde. Quand tu entends, toc, tu es rendu au fond. Mais l'amour de Dieu, comment tu laisseras ta corde descendre des siècles et des siècles? Tu attendras vraiment toc, parce que c'est insondable. Tu ne peux pas te rendre, tu ne peux pas comprendre jusqu'à quel point le Seigneur nous aime. Ça, c'est rassurant. Moi, j'avoue, des fois, une fois, je suis allé à une conférence à Saint-Jérôme, puis il avait invité un pasteur presbytérien et il nous avait emmené un message sur l'amour de Dieu. Mais la manière que je filais quand il a commencé son sermon, autrement dit, je n'étais pas dedans. Puis là, il nous a emmené un message sur l'amour de Dieu. Il m'a fait comprendre un peu l'idée que je vous disais tantôt. Même si on fait dur, même si on a des chutes, même si on a des manquements, le Seigneur t'aime à un point que tu ne peux même pas mesurer. Ça, c'est intéressant de se faire ramener cette idée-là à l'esprit, surtout quand tu es découragé un petit peu et que tu arrives toutes sortes d'affaires. Le Seigneur t'aime. Alors, Éphésiens 3, versets 17 à 19, « Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'enraciné et fondé dans l'amour, vous soyez capables de saisir avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. » Mes amis, il faut s'arrêter des fois à mesurer ce que les mots disent. Ça surpasse toute connaissance. Peu importe la quantité de connaissances que j'aurai sur l'amour du Christ, l'amour de Christ, il t'aime beaucoup plus que tout cela. Ça dépasse la connaissance afin que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est un texte d'une profondeur, ça. Éphésiens 3, 17 à 19, là. On pourrait passer des années à étudier ce texte-là, puis aller mettre en relation avec des situations qu'on a vécues dans nos vies, ou la mettre en relation avec d'autres textes qui sont dans les Écritures. Alors, la sympathie. Alors, on a parlé des tendres soins, des grâces innombrables, de l'amour insondable et ineffable. N'est-ce pas que c'est merveilleux, ça? Et je suis loin d'avoir fait le tour de merveilleux, là. Juste sur le nom merveilleux, on aurait pu passer plein de sermons. Et il y a une autre affaire, la sympathie. Acte 9, versets 4 et 5. Oh, et dans le contexte, c'est Paul, il s'en va, puis là, il tombe. Et ça dit, « Étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? » Et il dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de régimber contre les aiguillons. » Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner ici? Jésus dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Est-ce que Paul persécutait le Seigneur? Il persécutait des croyants. Et le Seigneur s'identifie tellement intimement avec ses élus qu'il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes croyants? » Pourquoi me persécutes-tu? Parce que quand tu persécutes un enfant de Dieu, Jésus le perçoit comme tu le persécutes lui personnellement. Alors la sympathie, ça veut dire que peu importe ce qu'on vit, que le Seigneur permet qu'on vive dans nos vies, le Seigneur va l'exercer envers chacun de nous. Donc on a fait le premier nom. Le deuxième nom. Conseiller. On avait dit aussi la semaine dernière, en commençant les noms, que chaque nom correspond à un besoin qu'on a comme élu de Dieu. Le conseiller, le besoin qui est comblé chez nous, chez l'élu, c'est la sagesse. Parce que Si vous avez une grosse entreprise ou si vous avez n'importe quoi, on a besoin de sagesse des fois. Il nous arrive des situations là, où on est devant ça et on se dit « je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas qui consulter. Je suis comme débordé, je suis submergé, je ne comprends plus rien. » Dans ce temps-là, là, si vous avez un ou plusieurs bons conseillers, n'est-ce pas que la sagesse est bonne? Hein? Prenez un dirigeant d'entreprise, une grosse entreprise, puis s'il s'entoure de 8-10 bons, il y en a un que sa force, c'est les finances, l'autre, sa force, c'est savoir diriger le personnel, l'autre, sa force, c'est etc., etc. Un dirigeant d'entreprise qui sait s'entourer, il va passer à travers n'importe quel problème. Mais un conseiller, on en a tous besoin dans nos vies de conseiller. Et on dit de Jésus qu'il est le conseiller. Son nom est conseiller. Il est capable de nous conseiller, peu importe les situations qu'on va vivre, il est capable de nous conseiller. Voyez-vous, dans Ésaïe 28, au verset 29, ça dit « Ceci procède aussi de par l'Éternel des armées. Il se montre admirable en conseil et magnifique en sagesse. » Alors, les Saintes Écritures nous enseignent que le Christ a été consulté dans les œuvres. Alors, quand on regarde les œuvres, les principales œuvres de Dieu, bien sûr, la création, c'en est une. Un autre, la providence. Toutes les circonstances de la vie de tous les individus qui sont sur la terre, et plus particulièrement les circonstances de ses élus, c'est nous, nos circonstances. La Bible dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont consultés pour amener les meilleurs dans nos vies. Donc, pour la création. Et quand on regarde la création, le Seigneur a été consulté pour l'œuvre de la création, le Seigneur Jésus, ainsi que le Saint-Esprit. Ça s'est fait en conseil. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils se sont consultés pour les œuvres de la création. Et ça, si on rentrerait là-dedans, c'est énorme. Après ça, la providence, autrement dit, les circonstances que Dieu permet qui arrivent dans nos vies de tous les jours, le Seigneur Jésus-Christ a été consulté aussi là-dedans. Autrement dit, nos circonstances, ce n'est pas des choses qui nous arrivent par hasard. Dieu contrôle toutes nos circonstances sans exception. Et il y a toujours un but en arrière de tout cela, c'est toujours celui de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. On le sait, on se l'est fait dire des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois. Mais entre comprendre une idée, on peut comprendre l'idée. Mais de là à l'intégrer dans ta vie, puis de recevoir chacune des circonstances de ta vie comme venant de Dieu, et étant rempli de sagesse, étant rempli d'amour, et étant rempli de tous les attributs de Dieu, on est loin. On régimbe, on chiale, on rue des brancards, on n'est jamais content. Pourtant, si quelqu'un comprendrait vraiment que les trois personnes de la Trinité se sont entendues sur contrôler nos circonstances, on les accueillerait toujours avec amour, on les accueillerait toujours avec patience, on les accueillerait toujours avec sérénité, on les accueillerait toujours avec sagesse. Et ce n'est pas notre cas. Alors, quelque part, c'est des choses qui sont un apprentissage. Ça prend des années avant d'apprendre ça. À un moment donné, des fois, tu vas arriver face à une circonstance, tu seras porté à chialer. De coup, Dieu te met à l'esprit. « Ouais, mais c'est moi qui t'ai envoyé ça. » Arrête de broyer. Remercie à place, parce qu'il y a un but en arrière de tout ça. Donc, il a été consulté dans la Providence. Et il a été consulté, bien sûr, dans une des grandes œuvres divines, la rédemption, autrement dit, le fait qu'on a reçu éventuellement le salut. Les circonstances de nos saluts varie d'un individu à l'autre. Il n'y en a pas un pareil ici. Il y en a un que c'est par un Nouveau Testament, un autre un ami. Les circonstances que Dieu a permis qui arrivent dans ta vie pour que tu arrives au salut. Alors, bien sûr, c'est le meilleur conseiller qu'on ne peut pas avoir. Le Seigneur va toujours nous conseiller de manière à ce que nous aimions ce qu'il aime et que nous désirions ce qu'il désire. Ces conseils, en général, pas en général, toujours, vont toujours produire en nous un esprit soumis à Dieu, un abandon des choses du monde, de la sainteté dans notre conduite, un esprit content. On pourrait en parler longtemps de celle-là. Un esprit content. Le contentement. Quand on parle des circonstances de nos vies, Dieu nous envoie des circonstances. Comment ça fait qu'on n'est pas content tout le temps? C'est parce qu'on ne comprend pas que Dieu nous envoie ça, puis c'est pour notre bien. Des fois, ça fait mal. Mais si on s'arrête, puis que spirituellement, on prend conscience que Dieu nous envoie ces choses-là dans un but de nous rendre meilleurs, dans un but de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ, est-ce qu'on le recevrait de la même manière? Non. Si on pense que Dieu nous l'a envoyé puis qu'il y a un but derrière de ça, on serait capable, même si c'est très souffrant, de reconnaître, Seigneur, je sais que tu m'as envoyé ça, je sais qu'il y a une raison, je sais que tu as un but. Merci. L'avez-vous déjà fait des fois quand ça va pas bien, là, puis vous faites ça, vous dites ça au Seigneur? Parce que c'est, on devrait le faire si on ne le fait pas. Donc, de nous donner un esprit content. On aurait beaucoup de choses à dire sur le contentement. On aurait beaucoup de choses à dire sur notre tempérament. Que le Seigneur nous donne un tempérament doux. Des fois, on est colérique un petit peu, on est impatient beaucoup. Que Dieu nous transforme notre caractère pour qu'il ressemble à Jésus-Christ. C'est ça le but de la vie chrétienne. Le Seigneur nous prend d'un point où on fait dur et il nous corrige petit à petit avec toutes sortes de moyens, dont les épreuves, dont les Écritures, dont les amis chrétiens et plein d'autres choses. Alors, l'autre, c'est Dieu puissant ou Dieu fort. Alors, le besoin qui est comblé chez l'élu, c'est vraiment le support. Si vous avez besoin de quelqu'un lorsque vous êtes vraiment mal pris, si vous avez affaire à quelqu'un qui est fort, disons que vous êtes mal pris, puis vous avez besoin de soulever quelque chose, puis vous essayez, vous n'êtes pas capable, mais si quelqu'un est fort, il va être capable de vous aider. Mais Dieu est fort au point d'être capable de changer toute chose en toi. Hébreux 1, verset 3, il parle de Christ, il dit « Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Alors, le Christ a manifesté sa puissance quand il est venu sur la terre de plusieurs manières. Guérir les malades, commander aux éléments, commander au vent, commander à... chasser des démons, ressusciter des morts. Est-ce que ça démontre un petit peu la puissance du Seigneur Jésus-Christ? Bien oui, bien entendu. Alors, dans Tite, chapitre 2, versets 13 et 14, on a le verset suivant. « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » C'est un verset clé de Tite 2, 13, si vous voulez vérifier que si une traduction est fidèle au texte original, Tite 2, 13, remarquez cela, c'est un nom, c'est un verset clé pour savoir si une traduction est bien faite. Parce que ça dit bien « et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur ». Donc, le mot « Dieu », il y a le mot « et » avec les deux. Donc, il est à la fois Dieu et Sauveur. Puis, ça dit son nom, de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Troisième nom, Père éternel. Donc, le besoin qui est comblé chez l'élu, c'est le réconfort et la protection. Ici, le nom donné au Messie, bien entendu, quand il appelle le Messie Père éternel, ça ne veut pas dire que le Fils, la deuxième personne de la Trinité, devient la première personne de la Trinité. Père éternel, dans le sens de dire qu'il s'occupe de nous comme d'un Père de façon éternelle depuis le début, de l'éternité, il va se rendre jusqu'à la fin, il s'occupe de nous comme d'un père qui aime ses enfants. Voyez-vous, Jésus avait dit dans Jean 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, il est en train de parler qu'il a toujours existé. Et on a d'autres versets aussi, plein de versets. Colossiens 1, verset 17. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On parle de Jésus et on dit qu'en lui, dans le temps qu'il était homme sur la terre, habitait toute la plénitude. Chacun des attributs de Dieu dans toute son infinité habitait en lui. Jean 1, 3, Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Alors on comprend qui est Christ. Et quand il dit Jean 10, verset 30 à 33, on va prendre juste le verset 30, quand il dit devant les Juifs, « Moi et le Père, nous sommes un. » Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire, les Juifs? Ils ont voulu le lapider parce qu'ils ont dit, « Écoute, t'es un homme, puis tu te fais Dieu. » Mais ce qu'il disait, il l'était. Alors, l'autre titre, « Prince de paix », le cinquième. Alors, le besoin qui est comblé chez l'élu, c'est vraiment la réconciliation avec Dieu. « Prince de paix ». Quand on dit, quand on a vraiment compris qu'on a reçu le salut, on est en paix. Pourquoi on est en paix? Parce qu'on sait qu'on avait une énorme dette envers Dieu et que si on mourait dans cet état-là, on s'en allait en enfer pour l'éternité pour payer ce que chacun de ces péchés-là nous méritait pour l'éternité. On avait besoin de retrouver la paix. On avait besoin de savoir qu'avec quelqu'un qui avait pris notre punition à notre place, qui avait accompli ce que Dieu exigeait de chacun de nous à notre place. On avait besoin de paix. Et quand on a le salut et qu'on s'arrête vraiment à comprendre qu'est-ce que c'est et qu'on est dans un bon état avec Dieu, on a la paix. Quand il dit « prince de paix », Jésus est le prince de paix. Voyez-vous, ça dit dans Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, le Messie apporte la paix avec nous-mêmes. On retrouve la paix en nous-mêmes. Et il a apporté aussi la paix entre les Juifs et les non-Juifs. Dans Éphésiens 2, verset 14, car il est notre paix, lui qui a fait des deux, n'en a fait qu'un, qui a renversé le mur de la séparation. Il est en train de parler de la séparation qui existait entre les Juifs et les nations. Alors la paix, il l'a apportée en brisant le mur. Moi, j'aime bien Colossiens 2, 13, parce que c'est un verset tellement intense, tellement riche, tellement... il dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Quel beau verset! Il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Est-ce que depuis qu'on est levé ce matin, on a fait encore des offenses à Dieu? Oui, on en fait tous les jours, on n'arrête pas. Peut-être pas des grosses offenses comme avant qu'on soit sauvé. Hein. Mais Dieu, quand il nous fait grâce non seulement pour nos fautes du passé, il nous fait grâce pour nos fautes d'aujourd'hui, et il nous fait grâce même pour celles qu'on va commettre dans l'avenir. Toutes nos offenses. C'est quel beau verset de voir que Dieu est capable de s'occuper de tous nos problèmes. Donc la personne et l'œuvre de Christ procurent la paix, proclament la paix et donnent la paix. Et on va voir, on va aller dans le verset 6 maintenant. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, le règne du Messie va avoir une croissance incessante. Même si actuellement, on ne voit pas que le Christ a pris contrôle l'ensemble de tout ce qui se passe sur la terre, depuis le début, il y a toujours eu le contrôle. Et son accroissement, son royaume va toujours en accroissant. Même si nous, on ne le voit pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça qui se passe. Et donc, le règne du Messie aura une croissance incessante. L'humanité a connu plusieurs grandes civilisations dans le passé. Babylone, la Syrie, l'Égypte, la Grèce, Rome. Toutes ces civilisations-là se sont écroulées à cause de leur éloignement de Dieu et de leur péché. Maintenant, ce que le texte nous dit ici, c'est que l'accroissement du royaume, il va être incessant, il va toujours donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donc, il y a plusieurs promesses qui ont été faites concernant le royaume de Christ. Daniel 7, versets 12 à 14. « Et quant au reste des bêtes, on mit fin à leur domination, car une longueur de vie leur avait été donnée jusqu'à une époque et à un temps. Je regardais dans les visions de la nuit, et voilà qu'avec les nuées des cieux, vint quelqu'un comme un fils de l'homme, et il parvint jusqu'à l'ancien des jours, et on le présenta devant lui. Et il lui fut donné domination et gloire et règne, et tous les peuples, nations et langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne, un règne qui ne sera pas détruit. » Alors, on parle du règne de Christ. Maintenant, on va aller dans le règne du Messie qui produit la paix, le droit et la justice. Alors, il y a plusieurs bonnes idées à l'intérieur de ça. Le Messie a des ressources infinies à sa disposition et il va les utiliser en tout temps, de façon sage, pour atteindre ses objectifs de paix, de droit et de justice. On a vu ce que ça dit. Il va avoir de l'accroissement et tout son règne va être caractérisé par la paix, le droit et la justice. Quand on regarde l'alliance qu'on appelle l'alliance de David dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 7, versets 12 à 16, pour ça, parce que dans le texte, il y a le mot David. Il parle du règne de David. Alors, il faut quelque part comprendre qu'est-ce qui est en train de se réaliser. « Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes, avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Donc le Messie est en train d'annoncer pour dire que le Messie va être un roi. Mais ce qui est intéressant, c'est la signature, la fin des versets. Quand il dit « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Ici, c'est comme si le Seigneur vient de faire une promesse. Et quand on examine tout ce qui a été dit, on pourrait en dire encore beaucoup davantage. Là, il leur dit la promesse et il dit « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Autrement dit, il ne fera pas ça n'importe comment, nonchalamment. Du zèle, quand on le sait, quand quelqu'un est zélé, il fait les choses avec tout son être, il s'implique, autrement dit. Et la chose que je voulais surtout m'arrêter, on va parler un petit peu avant du zèle. Alors, le zèle chez les hommes est fait d'une passion intense dans le désir d'accomplissement d'un objectif. Disons que quelqu'un veut apprendre l'informatique, puis que du matin au soir, il est toujours dans ses livres d'informatique, il est toujours devant son ordinateur. Quand on dit, les personnes qui sont zélées dans quelque chose, qui sont passionnées, généralement, ils vont loin. Hein, parce que, et ça, c'est ça que ça se dit. Dieu, ici, va agir avec zèle pour accomplir tout ce qu'il vient de promettre. Mais c'est la fin que souvent on lit le texte et on glisse dessus trop facilement. Le nom « l'Éternel des armées », ça a une portée qu'on a vraiment peine à saisir. Le Seigneur, on le sait, est le maître absolu de toute sa création. Donc les armées terrestres, les anges, bons, mauvais, Les astres peuvent faire bouger les planètes comme ils veulent, peuvent faire arrêter le soleil. Ils l'ont fait dans le cas de notre ami, comment il s'appelait, lui qui a fait arrêter le soleil, en tout cas. Son nom ne me revient pas. Là. Les forces de la nature. Donc, le vent, les vents, les éclairs, le tonnerre, les tremblements de terre, les animaux, les poissons, les insectes, les microbes et les plantes. Autrement dit, quand on utilise, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, il est en train de vouloir te faire prendre conscience que celui qui a ce zèle-là, il a tout sous son contrôle, y compris les anges, les éléments de la nature, les armées terrestres, les anges, les as, les oiseaux, les poissons. À quelque part, là, quand on voit le nom l'Éternel des armées, c'est ça qu'il faut qu'il nous montre à l'esprit. Dieu contrôle absolument toute chose qu'il y a sur la terre et il est capable de les utiliser pour faire avancer son royaume. Prenons la sortie d'Égypte, par exemple. Dieu a amené, et il s'est servi de grenouilles, il s'est servi de poux, il s'est servi de... Mais c'est là qu'on peut voir, on peut vraiment utiliser le nom l'Éternel des armées. Parce qu'il contrôle absolument toute chose qui a été créée. Et il est capable de les utiliser pour faire avancer sa cause. À quelque part, là, il faut vraiment s'arrêter parce que quand on lit dans les Écritures l'Éternel des armées, c'est vraiment un nom qui veut nous faire saisir toute la toute puissance de Dieu, son contrôle infini sur toute chose absolument. Alors quand il dit « Je serai zélé pour accomplir ce que je viens de vous dire et mon nom c'est l'Éternel des armées », on devrait tomber en adoration. Seigneur, je sais que tu l'as promis, mais je sais que ça va arriver. 700 ans plus tard, est-ce que le Messie est venu? Est-ce que le Messie correspondait au nom qui était nommé dans le texte? Bien entendu. Alors, dans le psaume 103, versets 19 à 22, ça dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et il règne sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. » Trois applications, le texte qu'on a fait la semaine passée et cette semaine. Les prophéties messianiques, ce sont des choses très passionnantes à étudier. Elles nous enseignent richement sur la personne et l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toute étude sérieuse et toute méditation sur ces passages de la Bible seront richement récompensées. Si quelqu'un prend ses Écritures et qu'il regarde toutes les prophéties qui concernent Jésus-Christ et qu'il étudie en profondeur, il va être émerveillé à chaque fois. Puis il y en a plein, là. Ça, c'est, on lit Isaïe 9, mais il y en a eu d'autres, Isaïe 53 et plein d'autres. Deuxième application, méditons sur le grand mystère de l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité. L'homme-Dieu, Jésus, est fascinant et merveilleux. C'est une source inépuisable de découverte, de beauté, de sagesse et de grâce au pluriel. Troisième application, le royaume de Dieu est une œuvre divine, infiniment solide, infiniment sage et infiniment glorieux. Reposons-nous en Jésus-Christ. Nous sommes les sujets aimés de ce grand roi. Ça, quand on prend conscience vraiment que Jésus nous aime malgré toutes nos... C'est comme un baume sur notre cœur. Tu m'aimes pareil. Ben oui, vous aime pareil. Et de façon beaucoup plus intense et profonde que vous êtes capable de l'imaginer. Alors que le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, soit adoré, béni et loué éternellement. Amen.